Geneviève. Malgré les cachets que j'ai avalés, l'épouvantable mal de tête avec lequel je me suis réveillée ce matin ne m'a pas quittée. Quelle affreuse nuit. J'aurais préféré que tout ceci ne soit qu'un cauchemar. Parce qu'un cauchemar, si l'on s'en souvient au réveil, les souvenirs s'estompent au fil des heures qui passent pour disparaître complètement. Alors que là, je me souviens parfaitement de ce qu'il s'est passé. Je n'étais plus moi-même. Je me croyais revenue à l'époque où j'étais comédienne. Comme si 40 années de ma vie avaient d'un coup été effacées. Et Paul, quand il m'a appelée, je ne l'ai pas reconnu. Pas même une seconde, je n'ai ressenti un sentiment de familiarité. Il a fallu cet orage, ce vent lorsque je suis sortie du bungalow, cette pluie pour que je recouvre peu à peu mes esprits, pour que je reprenne pied et récupère les années un instant disparues. Mais la sensation d'hier reste tenace. Pendant plusieurs dizaines de minutes, je sais que j'ai tout oublié. Je sais que je n'étais plus capable de me souvenir, ni même de reconnaître l'homme qui partage ma vie depuis si longtemps. Lorsqu'enfin, tout s'est arrêté, j'ai cru que mon cœur allait se briser en mille morceaux. Plus jamais je ne veux ressentir cela, plus jamais. C'était comme être tombé au fond d'un gouffre obscur, sans aucun moyen d'en réchapper. Jusqu'à présent, les pertes de mémoire étaient minimes. Je cherchais mes clés, j'oubliais que j'avais rangé tel objet à tel endroit, voire que Paul ou l'un des enfants m'avait dit quelque chose. Mais jamais. Je n'avais oublié jusqu'à l'existence de mon propre mari. À midi, nous avons déjeuné presque en silence. Pourtant, il va bien falloir que nous discutions de tout ceci, que je lui explique. Il faut qu'il comprenne. Assise sur une des chaises longues, le dos bien calé par un coussin qu'il m'a gentiment apporté, je lis sans le comprendre un roman que ma fille m'a offert pour Noël. Moi qui suis habituellement friande d'enquêtes policières, je suis incapable de me concentrer. Et ce mal de tête qui ne me quitte pas, c'est quasi insupportable. Je repose mon livre et me passe la main sur le front, comme si cela pouvait faire disparaître la douleur lancinante. « Tu veux un thé glacé ?» me propose Paul. Lui aussi était en train de lire le journal à côté de moi. J'ai pour habitude de le taquiner à ce propos, parce qu'il le lit de la première à la dernière page, toujours. Sans jamais en sauter une seule. Même si ça concerne une de ces actrices à la mode, dont nous ignorons totalement l'existence, ou une nouvelle méthode de culture pour les tomates. Oui, je veux bien. Merci. Il revient quelques minutes plus tard et pose entre nous un plateau avec une carafe de thé glacé et une assiette de madeleine. J'en raffole depuis toujours, à tel point que c'est devenu l'une de mes spécialités. Chaque fois que notre petit-fils vient à la maison, il m'en réclame. Il faudra que je note ma recette quelque part pour quand je serai partie. Et surtout, avant que je ne l'oublie. Maintenant, je sais qu'il ne me reste que peu de temps. Et cela me terrifie. Ton mal de tête est passé, ma chérie? Hélas, non. C'est sûrement lié au manque de sommeil. Ce soir, nous ne sommes pas obligés de nous rendre au feu d'artifice. Si tu veux, nous pouvons dîner tôt et ensuite je te masserai les pieds. Ça t'a toujours détendu. Paul, il faut que nous parlions d'hier soir. C'est important. Il faut que je t'explique. Il se lève aussi brusquement que le lui permettent ses jambes fatiguées. Que veux-tu m'expliquer? Il n'y a rien à dire. Beaucoup de gens ont la maladie d'Alzheimer et tu n'en es sans doute qu'au début. Il nous reste encore des mois et des années. Pourquoi en parler ici et maintenant? Tu ne te souviens pas de ce que je t'ai dit hier soir? J'ai un cancer du sein, Paul. Je m'en souviens parfaitement. Un cancer, ça se soigne. Avec toutes tes amies qui sont passées par là autour de toi, tu es bien placée pour le savoir. Ça y est. Nous y sommes. Il faut que je le lui dise. Pourquoi est-ce que j'ai si mal à la tête? Je ne compte pas me faire soigner, Paul. Je ne veux pas en guérir. Il me regarde, incrédule. Je lis un début de panique dans son regard, mais aussi une profonde détresse. J'ai tellement de peine. Jamais je n'aurais voulu avoir à lui faire du mal. Comment ça, tu ne veux pas te faire soigner? Si c'est la chimiothérapie qui te fait peur ou de perdre tes cheveux, je serai là, moi. Je te soutiendrai. Il s'assoit à côté de moi sur le bout de la chaise longue et me prend la main. Je te jure que même sans cheveux, je t'aimerai. Nous allons nous battre ensemble, ma pivoine, et je te promets que nous allons nous en sortir. À mon tour, je serre la sienne. Je n'ai pas peur de la chimiothérapie, Paul, ni de perdre mes cheveux. Et s'il n'y avait que ça, je me ferais hospitaliser dès demain pour vaincre cette maladie. Mais le problème est plus vaste. Tu ne comprends pas que mourir de ce cancer me permettra d'échapper à Alzheimer. Je sais que c'est difficile à admettre, mais je vois ce cancer comme un cadeau, un moyen d'échapper à ma lente disparition. C'est ridicule. Non, ça ne l'est pas. Je refuse de voir mes souvenirs m'échapper, de ne plus savoir qui je suis. Et par-dessus tout, je refuse de t'oublier ou d'oublier nos enfants. Cette nuit, lorsque j'ai réalisé que je ne t'avais pas reconnu, que pendant plusieurs minutes j'avais même oublié jusqu'à ton existence, j'ai eu si mal, Paul. Si mal. Ma décision est prise. J'aimerais tellement que tu me comprennes. Guérir du cancer ne me sauvera pas. Cela ne fera que prolonger un peu plus longtemps mon calvaire. Je t'en supplie, mon amour, ne cherche pas à me faire changer d'avis. Pendant plusieurs minutes, il ne dit rien. Je le vois se décomposer lentement devant moi, s'affaisser et se laisser envahir par ses émotions. Lui que j'aime depuis tellement d'années et qui a toujours été un roc sur lequel j'ai pu m'appuyer, lui qui m'a toujours tenu la main pour avancer, soudain je le sens faiblir. Des larmes silencieuses roulent sur ses joues parcheminées. Oh non, je t'en prie, mon amour, ne pleure pas. Je ne vais pas y arriver sinon. Je le prends dans mes bras. C'est la première fois de ma vie que je le vois pleurer. Même pour la naissance de nos enfants, il a retenu ses larmes de joie, par pudeur sans doute ou par fierté. Il vient d'une famille dans laquelle on ne montre pas ce que l'on ressent, une famille dans laquelle un homme ne pleure pas. Et là, après toutes ces années, il sanglote dans mes bras comme si une digue venait de lâcher, déversant avec elle toutes les émotions contenues. « Mais qu'est-ce que je vais devenir sans toi ?» murmure-t-il enfin. « C'est toi ma force. C'est parce que tu es là que je peux avancer chaque jour. Si tu n'es plus là, je ne suis plus rien. » Nous restons ainsi enlacés pendant un long moment, aucun de nous deux n'ayant le courage ni l'envie de lâcher l'autre. Parce qu'ensuite, nous le savons tous les deux, plus rien ne sera comme avant. Le voir souffrir ainsi me rend malheureuse comme jamais. Mais je sais que cela ne changera rien à ma décision. Et me laisser partir est le plus beau cadeau qu'il puisse me faire.